François Mourad, pour cette deuxième partie de ce Radio Barque, après avoir fait un peu mieux connaissance de ce que vous êtes, de ce à quoi vous aspirez aussi, on entre véritablement dans le vif du sujet. Alors, vous avez déclaré, bon, vous avez déjà été élu conseiller départemental, mais vous avez clairement déclaré il y a quelques mois, donc vous vous y prenez à l'avance, on ne peut pas vous le reprocher, que vous étiez intéressé par les législatives sur la circo de Carcassonne 1, qui d'ailleurs, remarquons-le, comprend l'agglomération, enfin le Carcassonne, on va dire, la zone, et Lézignan, qui jadis était narbonnaise et qui a basculé, ce qui peut-être pour le député donne une responsabilité nouvelle, peut-être plus large. Enfin, alors comment vient ce déclic ? C'est un aboutissement normal après le département ?
Alors, je ne sais pas si c'est après le département, mais je crois que bon, comme toute personne, comme toute femme, tout homme, il y a une horloge biologique, une horloge interne qui est professionnelle, qui est celle aussi des idées. Ça me paraît être aujourd'hui une évidence. J'ai eu des enfants tôt, donc des responsabilités tôt dans ma vie. J'ai déjà un enfant, un fils qui est adulte, l'autre qui l'est bientôt. J'ai aujourd'hui du temps. Et ce temps-là, tant que j'en ai l'énergie et la motivation, je compte bien le mettre à profit des Carcassonnais, des Lézignanais, des Tréméens, des habitants de Moux ou d'ailleurs. Je crois qu'à un moment donné, il faut aussi cette énergie, oui, effectivement, et puis une volonté. Pour aller faire le pied de grue devant les ministères, l'Aude est parfois l'oublier, fait partie des territoires oubliés, un territoire qui est pauvre. Et finalement, on a très peu de réseaux parisiens. Vous me disiez que vous aviez un député, vous avez confié qu'effectivement, il fallait être en contact avec Paris pour pouvoir amener de la visibilité.
Là où est le pouvoir.
Exactement, dans nos territoires. Moi, je crois surtout que j'en ai réellement l'envie et la détermination. Et quand je suis déterminé à faire quelque chose, en général, il n'y a pas grand-chose qui m'empêche d'arriver à mon but.
Bon.
Donc, je dis ça avec, encore une fois, beaucoup de détermination. Je me sens prêt, là, effectivement, à amener deux beaux projets, un pour Carcassonne ou le Carcassonnais, un pour le Lézignanais, tant que je me sens suffisamment en forme pour le faire. Et il faudra être bon pour me mettre à la porte d'un ministère, parce que si on me met à la porte par la fenêtre, je reviendrai par l'autre, ou par la porte.
Alors bon, voilà une déclaration d'intention, en tout cas, qui est parfaitement claire. Sauf que, François Mourad, vous passez de... Alors le titre ou le statut ou la fonction de conseiller départemental, qui est un élu encore de proximité locale, à quelqu'un qui va s'occuper de politique nationale, même s'il restera ancré sur un territoire. On entre dans des enjeux qui sont totalement différents. On parlait de Paris. Oui, c'est plus Carcassonne. Là, c'est Paris.
Alors d'ailleurs, c'est le fond... est intéressante votre réflexion, parce que c'est le fond de l'approche que l'on peut avoir du rôle du député. On a vu certains députés un peu hors sol durant ce mandat. Je ne parle pas spécialement pour l'Aude, hein, je ne me permettrai pas d'ailleurs de tirer un bilan pour qui que ce soit. On a certains députés en France qui ont utilisé leur mandat à Paris pour faire la loi, la comprendre, débattre, travailler dans des groupes politiques. C'est très bien. C'est une très bonne chose, et ce travail doit être nécessaire. Ceci étant, un député a été élu au suffrage direct par des électeurs d'un territoire spécifique, avec des enjeux spécifiques, et c'est, à mon avis, à ces électeurs-là, et les autres d'ailleurs, d'apporter des solutions. En premier lieu, à la population qui est en attente, on manque d'emploi ici, on manque de sécurité, on manque tout simplement de considération. On n'est pas très considéré dans l'Aude. Moi, je veux que ça change. Je veux qu'on parle de Carcassonne, de Lézignan. Je veux qu'on parle de notre savoir-faire, de notre viticulture, de notre agriculture. Je veux qu'on parle de nous, premièrement. Et deuxièmement aussi, on doit aux maires de ces communes, aux élus locaux qui les administrent, des solutions quand on est député. Quel dispositif existe ? Nos finances sont toujours plus contraintes dans les collectivités locales. Bon, il y a eu la baisse des dotations de l'État, même si le gouvernement là a stoppé un petit peu l'hémorragie, il faut le reconnaître. On manque de moyens. C'est un peu ce qu'a dit Éric Ménassy, qui a pris la présidence des maires de l'Aude et que je salue dernièrement. il faut aider aussi les maires avec les dispositifs nationaux qui existent. Et moi, si je suis élu demain, ben je serai là. Je serai à Paris, c'est certain. Et puis je travaillerai, hein, ça, comme j'ai toujours fait. Et puis parce que j'en ai aussi les compétences, parce qu'elles m'ont été apprises, hein, tout simplement, parce que j'ai beaucoup travaillé pour y arriver. Mais c'est également aussi pour être aux côtés de ma population et de nos élus locaux.
Et François Mourad, vous dites on manque de considération. Est-ce que vous pouvez approfondir votre ressenti là-dessus ?
Bah, disons que je pense que les aides que l'on peut avoir et qui dépendent de l'autorité nationale et donc qui est centralisée en France à Paris, il y a le problème de la macrocéphalie en France, c'est-à-dire que c'est Paris et puis la province, hein, c'est comme ça que ça se passe.
Oui, macrocéphalie, en bon français, la grosse tête.
Grosso modo, la grosse tête est à Paris. Eh bien, moi, je préférerais que la grosse tête arrive un petit peu dans nos territoires. Alors, je considère qu'effectivement, nos territoires ne sont pas toujours considérés à leur juste valeur, en ce qui relève de leur capacité à attirer des touristes, de leur savoir-faire. J'assistais ce matin à une réunion sur l'enseignement supérieur. On est un peu aussi à la traîne sur toutes ces formations qui existent. Tout ne peut pas être centralisé dans les grandes villes, en particulier à Paris, mais également dans les métropoles. Nos territoires de moyenne importance doivent pouvoir bénéficier de l'élan. Et pour moi, l'élu qui est en capacité de faire le lien entre Paris et la province, eh bien, c'est bien le député.
Oui. Mais sur le plan touriste, ou tourisme quand même, vous êtes dans une ville qui est relativement gâtée par la nature, ou en tout cas par les circonstances.
Alors là, vous me faites plaisir, parce que je suis très chauvin. Nous avons effectivement...
C'est un fait incontestable.
À Carcassonne, de patrimoine à l'UNESCO, inscrit à l'UNESCO, la cité, le canal du Midi. Peut-être demain... Le classement des
citadelles du vertige.
De citadelles du vertige, des forteresses de montagne. Bon, en fait, c'est contreforts qui ont permis de protéger.
Ou des châteaux cathares, comme disent certains.
Alors ça, c'est à vous de le voir avec les historiens. Hein,
Absolument. J'ai bien dit, comme disent certains.
Mais effectivement, c'est un atout extraordinaire. Du côté de Lézignan, il y a la viticulture, il y a le patrimoine bâti aussi. Par contre, comment on articule ça? Effectivement, on a ce que un certain nombre d'autres territoires rêveraient d'avoir, c'est-à-dire un point d'attraction, qui est en particulier, bien évidemment, la cité de Carcassonne.
Et
qu'est-ce qu'on en fait ?
Oui, mais et qui là, si vous permettez, a été bien vu par le pouvoir central, parce que c'est quand même Viollet-le-Duc qui a rénové, relancé, si je puis dire, cette cité.
Et c'est le Centre des Monuments Nationaux, qui est une émanation, finalement, de l'État, qui en a la gestion, hein, puisque c'est pas la commune qui a la gestion. Mais, excusez-moi de rêver... pour Carcassonne, d'un spectacle médiéval permanent. Alors permanent, on pourrait l'envisager sur une saison de 7 ou 8 mois, avec quand on rentre dans le château, puisque notre clientèle est souvent une clientèle familiale, en haute saison, ce sont les enfants qui ont lu tout ce qu'ils ont pu trouver sur les châteaux forts, les châteaux cathares, les épées, bon, toute l'histoire moyenâgeuse qui les fait rêver. Qu'est-ce qu'on a à leur proposer ? Est-ce qu'un spectacle vivant permanent, où on a des hommes et des femmes à chevaux, un village reconstitué ? J'ai l'impression que ça aurait vraiment ça apporterait une réelle animation, qui fixerait d'ailleurs les touristes plus longtemps ici. Et puis l'histoire en elle-même, on pourrait s'appuyer par exemple sur les technologies actuelles de vision...
Laser, oui.
Voilà, les visions avec la réalité augmentée en particulier, pour raconter dans un second temps, au-delà de l'aspect ludique, l'histoire de la ville. Ça intéresserait tout le monde, ça pourrait faire l'objet aussi de recherches de patrimoine classé comme cela. Bon, je rêverais par exemple qu'il y ait un institut de recherche qui s'installe à Carcassonne ou dans ses environs, pour effectivement travailler et former nos jeunes
sur
plus tard.
Sur le médiéval.
Sur la médiévalité. Je pense les mieux placés de ce point de vue-là.
Mais il y a déjà, par exemple, des combats de chevaliers dans les lices de temps en temps.
Alors, c'est un tournoi très, 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 très bien qui est organisé depuis des années par des professionnels. L'idée, c'est que, et le constat surtout, c'est qu'aujourd'hui, à Carcassonne, on y reste une nuitée, 0,7. En moyenne par séjour.
Le 0,7 est important.
C'est-à-dire qu'on n'y reste pas tout à fait de nuit. Donc ça veut dire qu'on est quand même une zone de passage, qu'on vient à Carcassonne quand il ne fait pas beau, à la mer.
Et vous le verriez où ça? Alors dans les lices ou dans le château comtal? Vous le verriez où?
Moi je verrais un village, c'est-à-dire que dès lors que l'on franchit le pont-levis de la cité, il doit y avoir Eh bien, une dame qui sort de chez elle avec une serpillière habillée comme à l'époque, un homme à cheval qui traverse, à côté une forge, un petit peu plus loin une personne qui est en train de faire le pain dans un four. Vous savez, moi, le premier, quand j'ai eu mes enfants, on cherche un petit peu d'authenticité et d'authenticité reconstituée. Il n'est pas question de faire un parc d'attractions. L'idée, c'est de redonner vie telle que ce fut le cas à l'époque dans la cité, sans exagérer. Tout simplement, la façon dont on vivait avant et de façon à ce que les enfants se projettent. Et c'est une appréhension, à mon avis, de l'histoire qui est beaucoup plus digeste, finalement, que la lecture simple d'un ouvrage écrit. Et je pense que ça peut amener vers la connaissance historique, c'est intéressant.
Et vous pensez que le visiteur, avec une telle mise en scène, resterait non pas une 1,7 nuit, mais 2 ou 3 nuits ?
Alors si je vous propose de venir et d'avoir une chasse au trésor, par exemple, sur 2 jours, par exemple, est-ce que vous n'allez pas programmer votre chasse au trésor sur 2 jours, avec vos enfants ou vos petits-enfants ? Finalement, c'est une frontière tenue entre le tourisme d'attraction et l'aspect historique qu'on a à Carcassonne. Sans compter que la Bastide, ce qu'on appelle la Bastide, c'est le centre-ville, l'autre ville, la ville basse, est également un joyau avec toute l'histoire drapière, tous les hôtels particuliers. Donc on a vraiment quelque chose à articuler là-dedans. Et moi, je suis désolé, l'élu, encore une fois, que je considère être le plus à même de convaincre, les instances parisiennes, le ministère de la Culture, le ministère en charge des questions de patrimoine, je crois que c'est le député. Et pour ça qu'on a... Je souhaiterais pouvoir effectivement remplir ce rôle-là, parce que je pense que j'y mettrais de l'énergie. Voilà, et du côté de Lézignan, un certain nombre de dispositifs comme un territoire d'industrie. Moi, j'imaginerais pour Lézignan, qui est... aussi comme Carcassonne, sinistré par le manque d'emploi, la difficulté de...
Encore que Lézignan s'en tire pas trop mal.
Lézignan s'en tire pas trop mal, mais nos jeunes, c'est les statistiques qui le disent, c'est pas moi, nos jeunes sont encore, pour certains, éloignés de l'emploi jusqu'à 25 ans, le fameux moment où on peut bénéficier d'ailleurs d'accompagnement d'État. Peut-être qu'une entreprise, de l'enseignement supérieur... attirer sur notre territoire là aussi pourrait dynamiser. Oui. Ben pour ça aussi, ben il faut être dans le coup.
Alors donc, on va conclure cette deuxième partie là-dessus, François Mourad, un centre de recherche sur la médiévalité. C'est comme ça que vous
nous avez piqué la romanité par le passé, mais vous ne nous piquerez pas la médiévalité, Larbonne.
On marque une deuxième pause, François Mourad.